Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 97e épisode de Torréfaction. Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec notre sélection de l'actu. Et quand je dis notre, c'est moi et Caféine. Bonjour Caféine.
Bonjour Monsieur Fasquille, comment ça va?
Ça va, un petit peu speed toi aujourd'hui, non?
Ouais, je dois me téléporter après ce podcast, mais la technologie n'est pas au point, donc nous allons faire au mieux. C'est toujours hyper agréable d'enregistrer dans des conditions détendues.
Eh ben écoute, on ne traîne pas, alors on trace et on commence tout de suite par le gaming avec un nouveau mode pour StarCraft Remastered.
Ouais, qui a créé des petites discussion sur notre forum et d'ailleurs évidemment, puisque donc c'est un petit mode pour StarCraft Remastered qui est sorti en 2017 si je ne dis pas de bêtises, où Blizzard nous est repassé à la caisse pour une version remasterisée de son jeu qui a été rentabilisé 1000 fois, enfin 1000 millions de fois je pense qu'on peut même dire. Et c'est un mode, donc j'appelle ça le mode Cardbot, parce que en fait c'est un mode qui est fait en mode cartoon, qui est basé sur le design d'un canadien, enfin d'une boîte canadienne qui s'appelle Cardbot Animation. Okay. Et t'as l'impression en fait que c'est un cartoon pour les gosses, okay. Sauf que tu continues d'aller faire de la vraie guerre, hein, parce que bon, StarCraft on est quand même pas là pour amuser le terrain. C'est assez, j'ai vu 2-3 streams sur le truc, j'ai pas joué moi avec, j'ai trouvé ça assez rigolo, mais la raison pour laquelle ça fait débat, c'est parce que Blizzard, qui continue sa migration vers l'esprit Activision, on va dire que ça comme ça, fait payer $10 le mode en fait.
Ah oui, pas mal.
Alors en fait tu payes le mode $10 pour un remaster que tu as déjà repayé d'un jeu que tu avais peut-être déjà acheté.
On se foutrait pas un petit peu de notre gueule, comme on
alors,
dit.
Alors, déjà, tout travail mérite salaire, les gars. Oui, je suis certes, hyper certes. D'accord. Mais effectivement, il y a entre la position de oui, bon, enfin bon, il y a un boulot qui a été fait, c'est normal que ça soit payé. J'ai envie de dire oui, exact. Mais peut-être que Blizzard aurait pu le payer et vous en faire cadeau. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Je pense que ça aurait peut-être pu être aussi un cadeau pour la communauté, un truc qui fait plaisir. Mais non, bon, je vous rappelle que c'est quand même la boîte qui a inventé les micro-paiements à $10 dans World of Warcraft, donc voilà, moi les micro-paiements je les imaginais pas comme ça, hein. Je le dis à chaque fois, mais à chaque fois j'ai une sorte de douleur au niveau du fondement, donc on fait avec, c'est pas grave.
Et on enchaîne avec une nouvelle extension pour Final Fantasy XIV.
À laquelle j'ai pas du tout joué, mais oh. tu sais que c'est le genre de jeu où tu as envie d'y aller et tu te dis... Ah, les heures, les journées
Est-ce
de 24 heures.
Est-ce que j'ai vraiment le temps, ouais, c'est ça.
Alors, la réponse est oui, mais ça veut dire qu'il va falloir arrêter de faire d'autres trucs, et c'est là où ça devient compliqué. Genre dormir, et ça peut devenir compliqué très vite, surtout quand tu vois, tu ne rajeunis pas, et il faut s'occuper de ces petits neurones. Donc Final Fantasy XIV, Shadowbringers, toutes les reviews que j'ai lues sont unanimes. Ça en fait le meilleur MMO du marché actuellement. Okay. Mais, c'est surtout que le niveau a priori de cette extension est ultra haut par rapport à Heavensward, Stormblood, qui étaient les extensions qui étaient sorties précédemment. Alors évidemment, ils ont rajouté 1 milliard de trucs, mais ce qui fait vraiment la différence de ce MMO par rapport à tout le reste du marché, c'est que si vous voulez perdre des milliards d'heures tout seul, c'est-à-dire en oubliant le côté multiplayer, un des M du MMO, bah vous pouvez en fait, parce que déjà c'est une histoire façon JRPG qui se suit avec plaisir. Au niveau écriture, il y a eu 1 milliard de trucs de rajoutés. Je veux pas spoiler, mais en fait on s'est beaucoup battu contre les forces de l'ombre, etc. Et ben là même on s'aperçoit que les forces de la lumière font chier aussi. Donc on est dans un autre monde, on découvre plein de nouvelles créatures, etc. C'est ultra bien chiadé. Alors évidemment, Caf, tu viens de dire que tu n'y as pas joué, t'as l'air vachement entraîné. Je fais mon travail. Non, parce que j'ai fait beaucoup de trucs chiants ces derniers temps, donc du coup t'as le temps de lancer des streams de gens qui eux ont le temps de s'amuser. Et puis évidemment j'ai été lire la prose de collègues qui se sont régalés avec, et je suis extrêmement jaloux, donc tout le monde s'accorde à dire que c'est génial, mais moi il y a un truc que je retiens qui est vraiment le truc où je me suis dit putain, heureusement que j'ai pas le temps en ce moment, parce que sinon c'était adieu, c'est qu'en fait tu peux faire les donjons en solo, alors que bon, alors c'est un truc que je crois que tu pouvais déjà le faire avant, mais vous me corrigerez sur le forum évidemment en me traitant d'idiot si c'est le cas, mais c'est un truc que je trouve juste génial et que ils sont les seuls à faire, c'est-à-dire que tu peux partir explorer un donjon avec une équipe dirigée par des NPC avec toi en fait.
D'accord.
Alors ça, c'est déjà une très bonne idée, mais en plus, c'est scénarisé. C'est-à-dire que les personnages se parlent, etc. Un peu comme bah, dans les CRPG qu'on fait d'habitude. Ouais. On a moins l'habitude de voir ça dans les JRPG. Enfin, ce genre d'interaction, on le voit, si tu veux, mais dans un MMO, c'est du jamais vu, tu vois. Et à tel point que j'ai vu plusieurs reviews, les mecs disent, pour partir à l'exploration des donjons et puis bien profiter des cinématiques et du scénar qui vous explique ce que vous faites là, bah faites-le déjà en solo une fois, pour comme ça déjà découvrir les méthodes et tout. Et puis, bah, les NPC, il joue quand même vachement mieux que pas mal de casu, donc ça vous frustrera moins. C'est une très bonne nouvelle. Donc voilà, je suis très content. Je suis complètement snobé par la personne qui s'occupe, la RP qui s'occupe de Shadowbringers. Finalement, ça m'arrange. Restons comme ça. Continuons à ne pas nous parler.
Ça sera très bien.
C'est très bien pour ma vie sociale, pour mes autres jeux et tout. C'est génial. On fait ça.
Allez, on enchaîne avec Warframe.
Voilà, dans la série les jeux qui prennent pas de temps, on continue. Warframe. Il y a eu un truc qui s'appelle la TennoCon, donc la convention Tenno de 2019, la semaine dernière. Et je vous link en fait un petit papier qui résume toutes les annonces qu'il y a eu pendant cette conférence. Alors, ils n'ont pas été feignants, hein, les mecs de Digital Extreme. Quand il s'agit d'annoncer du lourd, ils sont là, ils sont présents. Il y a 1 milliard de nouveautés qui vont débarquer dans Warframe. Ce que j'aime beaucoup avec eux, c'est que c'est un peu aussi les rois du When It's Done, maintenant qu'ils ont de l'argent. Donc, il y a des trucs qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça va débarquer. Ils ont remontrer plus en détail l'extension où tu peux faire du multi-crew, donc il y a des vaisseaux spatiaux dans Warframe. Oui, je sais, ça surprend si vous n'avez pas suivi ce qui se passait ces dernières années, mais ça va arriver. Et dedans, ça se gère un petit peu comme avec ce jeu de vaisseau dont le nom vient évidemment FTL, voilà. Le nom, j'ai été le rattraper très loin dans un neurone planqué. Dans FTL, où tu as chaque personnage joueur qui va s'occuper d'un poste précis et qui va pouvoir comme ça faire avancer le combat, et puis évidemment tu pourras aller envahir d'autres vaisseaux, tu vas pouvoir te bastonner à la Warframe comme d'habitude. Alors si vous n'aimiez pas le rendu du gameplay, certains vont trouver mou, trop rapide, etc., bah ça va pas changer, hein, parce que c'est toujours pareil. Mais en revanche, si vous étiez déjà fan du look du jeu et du design, du gameplay, etc., bah là vous allez vous régaler, parce qu'ils ont rajouté plein de choses, et surtout ils ont teasé aussi une nouvelle zone où tu peux te balader sans être dans un couloir comme c'est souvent le cas dans Warframe, un peu comme les plaines d'Eidolon et compagnie, dont le nom évidemment m'échappe, mais tout est résumé dans le petit papier de Rock Paper Shotgun, qui en plus colle un petit trailer pas piqué des hannetons. Alors je me suis dit, c'est quand même vachement bien fait ce trailer. Warframe nous a pas habitués à ça, et pour cause en fait, c'est parce que il est fait par Dan Trachtenberg, que tu dois connaître, toi.
Oui, bien sûr.
Voilà, monsieur Ten Cloverfield Lane. Qui a bossé aussi sur des épisodes de Black Mirror, etc., et qui a priori est fan du jeu et qui s'est donc fondu, évidemment avec un petit chèque, j'imagine, de la part de Digital Extreme.
Travail mérite salaire, on y revient.
Bah voilà, une petite cinématique de 6 minutes en image de synthèse de cette qualité, autant vous dire que c'est pas complètement gratuit, mais le résultat est assez excellent. Alors ça explique pas 1 milliard de trucs sur le scénario, mais c'est vraiment hyper agréable à regarder. Matez-la, même si vous jouez pas au jeu, vous n'aurez pas perdu vos 6 minutes.
Et puis on va parler poker.
Et ouais, t'en reviens pas, hein.
Non.
En fait, on parle poker et histoire.
Ça y est, c'est les jeux de papy. On vieillit, vieux. On vieillit.
Et ouais. Enfin, un jeu qui correspond à mes réflexes. Non, là, le poker d'Apple revient pour les 10 ans de l'App Store. Alors, c'est hyper drôle parce que déjà, c'est les 11 ans de l'App Store, c'est pas les 10 ans. Donc, personne comprend ce qui s'est passé avec le retour de Texas Hold'em, qui était le premier jeu commercial de l'App Store, qui était évidemment fait par Apple à l'époque. Et la blague, c'est qu'effectivement, dans la description sur l'App Store aujourd'hui, tu as pour fêter les 10 ans de l'App Store, non, c'est génial. Ben ouais, c'est génial, mais c'était en juillet 2018, les mecs. Hein. C'était pas en juillet 2019. Donc, à mon avis, il y a quelqu'un qui avait oublié de le publier l'année dernière, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a été entièrement refait. Alors, il a pris un peu de poids en 10 ans. Hein. Il n'est pas le seul, on comprend. On s'épaissit avec l'âge de temps en temps. mais 1,5 giga le jeu de poker.
Et ah oui,
tu sens que, bah, mais tu sens qu'il a tous les personnages, c'est des images digitalisées en fait. Donc au bout d'un moment, ça prend un peu de place, surtout quand tu veux gérer les téléphones avec les écrans qu'on a maintenant. Donc ils ont tout refait. Ouais. C'est en 64 bits, etc., etc. Et il est passé gratuit. Donc moi, je voudrais qu'Apple me rende mes $5 de l'époque. C'est le mec relou 11 ans après. La vraie nouveauté, enfin la vraie nouveauté, le truc qui est pas nouveau, qui devrait être la règle, mais qui l'est rarement, c'est que en fait, c'est un des meilleurs jeux de poker du store, déjà, voire le meilleur, et qui se joue offline. Donc, parce que les trois quarts des jeux, maintenant, si t'es pas connecté, ils te font, ah oui, c'est mais bon, oh là là.
Et quand t'aimes pas les gens, c'est un vrai problème.
Bah voilà. Et là, en plus, tu peux aimer les gens, mais pas Internet. C'est-à-dire que tu peux jouer en multi, en étant sur un Wi-Fi, etc., mais t'es d'accord, pas obligé d'être sur le net. Donc, c'est plutôt cool. Et la blague, c'est que si vous dites, mais j'ai joué à ce truc-là, mais c'était il y a très longtemps, et oui, parce que ce jeu était déjà sorti à l'époque sur iPod. Donc, autant vous dire que ça fait un moment qu'ils sont dessus, les petits gars de chez Apple.
Et en vitesse, une petite news côté Nintendo.
Ouais, Nintendo qui continue de faire de l'argent justement sur iOS et Android aussi, ils sont pas fous, avec l'arrivée de Dr. Mario World. Tu sais, c'est un match game qui était sorti il y a super longtemps, il faut combattre des virus avec des petites gélules que tu envoies. D'accord. Et il faut faire des trucs de 3, c'est un Tetris inversé, j'ai envie de dire, je le résume, tous les puristes vont me lancer des cailloux, mais bon, bref, c'est un match 3, tout bêtement, c'est un genre de jeu assez classique, et qui débarque avec une version plutôt propre, qui est sortie hier, et j'ai eu le temps de faire deux parties, mais je voulais vous dire que c'était sorti, c'est dispo gratuitement, et comme avec le Mario World, enfin le Runner qu'ils avaient sorti il y a quelques temps, et bien c'est un titre où vous allez pouvoir dépenser de l'argent pour aller plus vite, mais j'ai pas compris le business model en fait. Tu peux acheter les cristaux, mais j'ai pas compris exactement où ça allait se placer dans le gameplay. J'ai mal fait mon travail, mais je vous ai dit, on était speed cette semaine, je fais ce que je peux. Je vous dis déjà d'aller le télécharger, que c'est sorti et que vous pourrez perdre du temps sur un truc sur vos téléphones ou passer plus de temps aux toilettes, enfin, en fait, comme vous voulez. Après, chacun ses problèmes de transit. Hein.
Allez, on passe du côté des apps avec des nouvelles du côté de Firefox, hein, notre browser qu'on aime bien.
Bah ouais, nous en fait, j'aime bien, c'est notre petit côté, comment dirais-je, propagande.
C'est ça.
Séquence propagande. Bah, vous aviez dit c'est les applications. Bah oui, mais un peu propagande aussi. Firefox 68, les mecs, qui est dispo. Je vais pas être, je vais être moyen sur la propagande. Il y a pas grand chose qui change. La plus grosse nouveauté de Firefox 68, c'est l'arrivée d'enfin d'un panneau de contrôle de vos extensions, qui est mieux fichu que ce qu'il y avait avant. Où enfin, on sait à peu près ce que ça fait, quand ça le fait, est-ce que c'est actif en mode privé, etc. Ils ont redesigné la page où tout est affiché. Là, les rumeurs actuellement on va dire que la plupart des articles qui parlent de Firefox parlent surtout de ces rumeurs d'offres intégrées où tu vas payer en fait Monsieur Mozilla pour avoir accès à des sites sans publicité ou avec des pubs gérées. Alors j'ai pas bien compris comment ça allait se placer, mais en gros vous payez une somme pour tous les sites au lieu de payer par site. Ils veulent essayer de regrouper plusieurs sites avec eux, un peu comme Apple News. Je schématise pour que vous essayiez de comprendre, mais c'est pas le meilleur exemple que je puisse trouver. Alors je suis assez dubitatif sur ce plan, mais en même temps Mozilla a besoin d'argent. Faut savoir que nous on fait la propagande de Firefox, mais que le plus gros client de Monsieur Firefox, c'est Google. Donc la situation est assez paradoxale, mais c'est la vie pour l'intégration du moteur de recherche de Google dans Firefox. Et j'imagine qu'ils essayent de un petit peu diversifier leurs sources de revenus. Ça va pas être facile. Donc on vous tiendra au courant si ces projets évoluent et de quelle manière. Bah, a priori, ils sont pas débiles. Hein. Ils savent très bien que la ligne du parti, c'est la vie privée, etc. Donc je pense que si vous demandez de l'argent, ça sera dans un cadre très précis et je l'espère bénéfique.
Firefox 68, donc, et on vous linkera un papier de nos collègues de Numérama qui fait le récap un peu des nouveautés. On passe du côté de la culture et curieusement, c'est toi qui vas nous en parler cette semaine puisque tu as bingé Stranger Things saison 3. À part ça, t'as pas de temps. Hein.
C'était le week-end dernier, c'est quand j'ai cru que ça allait en fait. C'est quand j'ai cru que j'avais du temps et c'était une erreur. Alors, j'ai eu du temps parce que j'ai vachement moins dormi, tu vois. On revient toujours à ces problèmes de trade-off.
C'est clair.
Alors je suis pas très bon pour les trucs culture parce que je fais pas comme toi des super recherches avec qui a fait quoi, etc. Je note simplement, je voulais vous en parler parce que c'est une, mine de rien, c'est une des plus grosses séries qui soit dispo actuellement. C'est le plus gros démarrage sur Netflix pour cette série d'ailleurs. Mm-hmm. Donc comme quoi il y avait pas mal de monde qui attendait la conclusion puisque a priori, c'est la conclusion, mais évidemment, ils n'ont pas pu s'empêcher d'ouvrir un petit peu à la fin.
Bah, bien sûr, il faut un petit cliffhanger quand même.
Au cas où, alors c'est pas vraiment un cliffhanger, mais c'est un petit chips pour vous dire, bon, si vraiment ils remettent un chèque,
il y a moyen.
Peut-être qu'on peut revenir, mais vraiment, bon, on n'a pas envie, hein, mais on peut. Je voulais juste en parler en disant que c'est rigolo parce que les deux premières étaient assez lentes. Tu sentais que ça étalait pas mal on va dire l'univers, le scénario que ça aurait pu tenir avec deux ou trois épisodes de moins. Là, ils sont partis dans un délire qui a rien à voir. Et j'ai vu une comparaison sur le net et effectivement, je trouve pas ça débile. C'est un petit peu comme Aliens versus Alien, tu vois.
D'accord.
C'est beaucoup plus orienté action. Il se passe des trucs sans arrêt. J'étais le premier étonné. C'est pour ça que je l'ai bingé d'ailleurs. Je vous avoue que je m'attendais à lancer deux épisodes et me barrer. Mm-hmm. Et en fait, non. Il se passe vraiment plein de trucs à tous les épisodes. Ils ont inclus des nouveaux personnages personnages qui sont assez excellents et que je ne vais pas vous spoiler parce que, enfin, il y en a une, c'est pas très grave, hein, c'est la petite sœur d'un des héros, on le découvre assez vite et je crois que c'est la gamine de 10 ans la plus tartable que j'ai jamais vue et ça fait partie du rôle, c'est la nerd qui s'ignore et elle est fabuleuse, elle est ultra bien jouée en plus et c'est vraiment le truc que je retiens de cette série, c'est que les acteurs, les gamins, bon, alors évidemment, c'est plus des gosses tout mignons parce que ça grandit beaucoup à cet âge-là, hein. Ça va vite, franchement, c'est hyper impressionnant, ils gèrent leur rôle impeccable. Et les effets spéciaux sont bien, bien dégueulasses, immondes dans cette version, parce qu'on n'est plus dans le, on n'est plus dans le shadow, on n'est plus dans le truc suggéré. Là, on est dans le blob, tu vois. Un
D'accord.
petit peu, film des années 80, un petit peu dégueulasse. Bah là, on retourne là-dedans avec un truc très, très organique, pas propre, qui se plus se nourrira au départ. Donc ça nous donne des petits trucs vraiment appétissants. Hein, je vous conseille, c'est rigolo. Donc si vous vous hésitiez, bah, vous pouvez jeter un œil. Ça reste évidemment une ode aux années 80. Donc ça va toujours agacer Fask.
Oui, bah oui, c'était un peu mon problème en fait avec les deux premières saisons, c'est que je trouvais qu'il se passait pas grand chose, que ce qui s'y passait était quand même très très cliché, et puis le référentiel à tout va, moi au bout d'un moment ça me donne envie de vomir, donc c'était pas très très subtil dans la saison 1, ça l'était un peu plus dans la saison 2, donc voilà, tu m'as donné envie de mater la saison 3 parce que j'avais clairement décidé de faire l'impasse, et puis bah voilà, si tu me dis que ça vaut le coup, sachant que toi t'étais pas méga fan non plus des deux premières saisons, ouais, je vais peut-être
j'ai
te donner
rigolé
sa chance aussi.
Ils ont été dans le too much, tu vois. Ils ont fait. En fait, t'as l'impression que les mecs ont dit fuck it, c'est la dernière.
Oui, mais voilà, assumer le truc, alors tu vois, c'est déjà plus intéressant, quoi.
Donc ils ont fait genre bon bah là on s'en bout. Il y a des références évidemment, des clichés sans arrêt. Il y a des séquences évidemment où tu te dis elle aurait pu faire une minute de moins, on n'était pas perdant. Il y a un moment ça se met à chanter des vieux tubes des années 80. Tu vois là l'option comédie musicale, c'était pas. C'est rigolo au début, tu vois, mais tu te dis ils vont pas le faire pendant toute la chanson. Peut-être que si. Donc là tu te dis bon c'était pas obligatoire. Alors évidemment, tout n'est pas parfait sur l'ensemble des épisodes, mais c'était une bonne surprise. Et puis, bon, ça reste le petit côté années 80 qui est quand même, pour les gens de ma génération, qui fonctionne toujours, quoi.
Stranger Things, saison 3, donc disponible en ce moment sur Netflix. Et puis, on passe du côté de la tech avec l'annonce de la Nintendo Switch Lite.
Ouais, le secret le moins bien gardé du monde. Ouh,
quelle surprise.
Ah, voilà, vache, Nintendo, vraiment, on s'y attendait pas. C'est magnifique. Donc, la Nintendo Switch Lite, effectivement, qui sera disponible à partir du 20 septembre. Alors évidemment, qu'est-ce que c'est que cette Nintendo Switch Lite? Bah là, c'est dans le nom, hein, les gars. C'est une Switch Lite. Mais qui a un petit problème, c'est que vous savez, le logo de la Switch, c'est le clic là, avec les deux petites manettes qui s'emboîtent, et puis le fait que ça montre un petit peu le côté, on la met dans le dock et bam, ça passe sur la télé. Ouais. Et bah tout ça, ça disparaît.
Okay.
Donc il y a déjà des mecs qui ont fait un gros logo, qui ont fait une nouvelle version qui me fait beaucoup rire, où t'as d'un côté le logo qui fait toujours clic, et puis après t'as la Switch Lite qui arrive et ça fait tong. Parce que c'est juste, tu la poses sur la table, puisque les manettes sont intégrées maintenant à la console, tu peux plus les enlever.
Okay.
Et bah tu peux plus jouer sur la télé. Donc c'est une version, en fait c'est une énorme 3DS version Switch, c'est une console exclusivement portable.
Okay.
Alors c'est pas du tout stupide en termes de marché, c'est vraiment même bien vu, mais pour bien targeter leur marché, Nintendo, ils ont pas été débiles, ils ont enlevé, en fait, au lieu, c'est pas une console, tu as l'habitude, on parle des consoles, tu feras, ils ont rajouté ci, ils ont rajouté ça et machin, mais évidemment elle est plus chère. Nintendo, ils ont fait l'inverse, ils ont enlevé des trucs, donc l'écran est plus petit par exemple. Ensuite il n'y a plus de rumble, les manettes donc ne sont plus détachables, et au final et eh ben écoute, 100 balles de moins.
Ah bah oui, quand même.
Et du coup, on se retrouve avec une console qui est annoncée à $199 aux États-Unis. Alors j'imagine qu'en France, peut-être avec de la chance, mais vraiment beaucoup, hein, parce que bon, on a un truc qui s'appelle la TVA qui va pas nous aider. Je vous rappelle que quand on annonce les prix américains, ce sont des prix hors taxes, sans arrêt. Donc s'ils arrivent à la sortir à 199€, c'est des champions. Et étant donné que la normale, je veux dire, est à 299€, très
oui,
souvent.
Ça serait logique, ouais.
Ça serait logique. Et c'est ce qui fait un peu l'intérêt, parce que d'un coup, tu te retrouves avec une console qui est quand même un petit peu moins bien à tous les niveaux, qui est plus adaptée à l'esprit nomade, mais qui est quand même un petit peu moins bien, sauf en autonomie où on gagne à peu près 20-30%, mais ça, personne n'a fait les tests puisque la console n'est pas dispo. On verra bien. Mais du coup, tu te retrouves quand même avec un produit un peu moins bien si le prix est pas... Enfin, tu vois, s'il y a genre 50 balles d'écart, ça n'a aucun sens. Donc, il faut que la différence de prix soit assez, assez violente. L'autre truc, si vous vous baladez souvent avec votre Switch, c'est qu'elle fait plus de 100 grammes de moins. L'ancienne était à 398 grammes, la nouvelle est à 275. Alors l'écran, je l'ai dit, il est plus petit, mais de combien? Un petit peu, c'est pas énorme. C'est 6,2 pour la normale et 5,5 pour la prochaine. Pour là, voilà, on n'est pas, on est, enfin, c'est pour un fichier du 1280 par 720, ça suffit. Hein, vos téléphones font mieux dans la même taille, on va dire, mais c'est pas dramatique. Après, ça reste une console qui est assez imposante à prendre en main. Donc, on n'est pas dans la 3DS en termes de taille qui se repliait et qui quand même prenait vraiment pas de place. Et la grosse nouveauté pour les joueurs, c'est que les quatre boutons qui étaient sur la gauche sont remplacés par une vraie croix de direction maintenant. Mm-hmm. Ils ont un petit peu amélioré ce genre de détails. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, attention, il y a des jeux qui ne seront pas forcément compatibles avec la Lite. Donc, il faut bien faire attention que vos jeux soient jouables en mode portable. Il y a un petit logo derrière les jeux pour vous montrer quels sont les modes compatibles avec tel ou tel jeu. Donc, sur les boîtes de jeux Switch. Donc, ça sera marqué sur les trucs. Et il faut vraiment vérifier ça. Je vous ai linké un petit papier de Numérama qui détaille tout ça. Et un autre papier beaucoup plus technique qui est très intéressant de chez Eurogamer qui parle en fait des évolutions du système on-chip Tegra X1 qui est le chip qui fait tout dans la Switch et où on s'aperçoit qu'il y a des évolutions de ce côté-là. Alors en fait, on pense que la Lite en fait va être un tout petit peu plus puissante que la normale, mais ça va jouer à que dalle. Mais que les évolutions de Monsieur Nvidia sur ce chip vont permettre de sortir éventuellement une Switch Pro, dont les rumeurs sont également persistantes pour début 2020 pour D'accord. les gens qui eux en veulent plus. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Et en tout cas, cette puce fait penser aussi qu'on aura peut-être une Shield revue et corrigée plus puissante pour mettre sous nos télés, et ça serait assez logique puisque du coup ça donnerait plus de jus à Nvidia pour justement booster son offre jeux vidéo qui a rien à voir avec Nintendo pour le coup, et puis aussi pour se positionner comme étant la box pour faire tourner Stadia avec nos amis Google, ce genre de choses. Bref, vu à quel point ils prennent soin de leur Shield, je serais pas étonné qu'ils fassent une vraie évolution du produit avec un nouveau matos, puisqu'elle a évolué d'un point de vue design et taille, etc. Mais c'est le matos à l'intérieur a très très peu bougé, donc ça serait assez logique.
Allez, on va parler de nos amis copieurs chinois.
Alors ça me fait beaucoup rire. C'était l'histoire marrante de la semaine dernière. Enfin, marrante, mais il vaut mieux en rire. C'est Xiaomi qui a sorti un truc assez drôle qui s'appelle les Mimoji. On n'a jamais vu ça.
Bah tiens, ça me fait vaguement penser à quelque chose. Hein.
Voilà, donc les Mimoji, à ne pas confondre avec les Memoji. Hein, ça s'écrit exactement pareil, sauf qu'au lieu d'avoir un I chez Xiaomi, on a un E chez Apple. Qui donc a copié les petits avatars 3D qu'on peut faire avec son smartphone. Ça sera intégré sur le Mi CC9, qui est un téléphone annoncé en Chine uniquement pour l'instant. Xiaomi est toujours en mode écoute, la propriété intellectuelle, c'est pour les autres parce que nous, on s'en fout. ils se sont fait plaisir, mais du coup, c'était déjà assez marrant de voir le truc débarquer où tu dis bon, les gars ont vraiment aucune idée, pas de département design, ils ont juste un département Xerox. C'est qu'est-ce qu'on peut copier aujourd'hui, je me demande. Et la grosse blagounette, c'est que en plus au niveau du site officiel de Xiaomi, ils ont fait une petite boulette, c'est qu'en plus ils ont embed les pubs Apple en fait et pas les leurs.
c'est pas possible,
je te jure, à la sortie. Et donc tu t'es retrouvé avec un site Xiaomi qui faisait la pub pour les Memoji et non pas les Mimoji, et pour Apple Musique, il y a un mec qui s'est gouré, qui d'ailleurs doit depuis casser des cailloux dans un camp, je ne sais pas où. Donc ça, c'était évidemment le truc un peu. Vaut mieux en rire.
C'est la cerise sur le gâteau quand même. Hein.
Voilà, c'est merci les mecs, merci de nous faire rire.
On a bien ri, ouais.
Merci de nous détendre. C'est une catastrophe. Les mecs, en fait, on en a vraiment rien à foutre. Alors déjà au niveau des designs des téléphones, de l'OS et tout est copié. Alors évidemment, tout est copié chez Apple. Hein. Même les stores sont copiés chez Apple. Les mecs sont là genre, mais pas du tout. Mais je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je ne comprends pas. Et moi, le deuxième truc qui m'énerve dans l'histoire, c'est que mes petits collègues dans certains sites web sont là, genre, à copier par accident. Tu vois? À copier par accident. Mais vous foutez de ma gueule, mais appelez un vol. Alors, en fait, les mecs osent pas trop y aller parce que tu te dis la propriété intellectuelle, enfin, des avatars 3D comme ça, même Apple l'a pas, en fait. Mm-hmm. Il y a une boîte qui l'a déposé en 2016, Apple a fait un deal avec eux, etc. Mais personne d'autre a fait de deal avec eux, et surtout pas Xiaomi, tu vois. Donc, c'est comme si t'allais voler des trucs dans le supermarché et tu t'as oublié de les payer par accident, tu vois. Arrêtez, les mecs, appelez un chat, c'est quand même super, c'est ridicule. La blague, c'est qu'évidemment, Apple n'a pas communiqué sur l'histoire. Ils se sont dit, bon, ça, on va se fatiguer pour rien, on n'y va pas. Bon, bref, ça sert à rien de s'énerver plus longtemps sur le sujet. On a l'habitude avec Xiaomi. Ils sont capables de faire des très bons produits à des très bas prix. Mais on aimerait bien qu'ils aient des idées à eux de temps en temps. Ça ferait plaisir, en fait. Hein.
Et on vous linkera un post de Daring Fireball. Tu me rappelles le monsieur qui est derrière, j'oublie toujours son nom.
Monsieur John Gruber.
Voilà, le monsieur qui avait inventé le Markdown, c'est ça, hein?
Le monsieur qui a inventé le Markdown et qui a le site web le plus moche de la Terre où il vend les sponsors à 80 000 dollars la semaine.
C'est ça.
Moi, je suis pas du tout jaloux. Tout va bien.
Et on en parle souvent ces dernières semaines. On va terminer avec nos amis d'AMD.
Ah, AMD. AMD qui revient dans nos cœurs et dans nos portefeuilles aussi. Parce qu'on va commencer à pouvoir dépenser de l'argent avec eux. Et oui, parce que pour la première fois depuis plus de 10 ans, ils reviennent clairement sur le haut du panier. Alors, j'avais annoncé que ça sentait bon dans les derniers podcasts. Ça y est, c'est officiel. Je vous ai linké, des papiers qui font eux-mêmes des links vers tous les tests disponibles pour les nouveaux processeurs Ryzen 3000 de la série 3000 et les nouvelles Radeon. Basé sur la technologie Navi. Ces deux papiers vont vous permettre donc de voir les liens de tous les tests actuellement dispo, et évidemment il y en a encore d'autres qui sont sortis depuis. Et l'excellente nouvelle, c'est que tout le monde est d'accord, le Ryzen, ça éclate, monsieur Intel, mais genre un cartonnage en bonne et due forme, hein, pour des prix mais hallucinamment plus bas. Donc au niveau CPU, c'est réglé, il y a même pas de débat. Intel est très 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 triste, et en plus pour l'instant ce sont sur des benches qui sont pas forcément optimisés pour ces CPU, tu vois, donc il y a encore en plus une marge de manœuvre. Pour 500 balles vous pouvez vous faire une machine avec un CPU de station de travail, en fait. Donc c'est vraiment pour avoir l'équivalent chez Intel, c'est plus du double je crois actuellement. Donc vous verrez, hein, y a des gens qui ont fait des tableaux de comparaison etc. sur les différents links que je vous ai balancés.
C'est le bon moment pour changer de PC en tout cas.
Ah bah là vous pouvez y aller, hein, les mecs, en 2000 à mon avis, même en fin 2020 ça sera toujours du AMD qui sera recommandé sur ce genre de truc. D'habitude on disait oui, mais si vous faites une machine de gamer, en single thread, c'est quand même Intel toujours le patron, etc. Et ben non, en fait là même ça c'est fini, c'est-à-dire que ils sont pas forcément devant en single thread, c'est-à-dire quand t'as pas l'opportunité d'utiliser toute la puissance du processeur, mais ils sont au niveau. Au pire, ils sont au niveau. Donc ça veut dire que maintenant, pour le gaming, il y a pas vraiment de problème. Et en plus, pour faire la station de travail de la 3D, bosser en fait, hein, avec un milliard de soft ouverts comme on fait maintenant. Alors là, il y a même plus photo. Ils se font atomiser côté Intel, qui va devoir du coup bouger ses petites fesses. Et rien que pour ça, ça sera une excellente nouvelle, puisqu'il y a déjà des trucs qui vont sortir apparemment des cartons d'Intel plus vite que prévu, et peut-être à des tarifs aussi moins élevés que ce qu'ils espéraient. Donc ça va être à suivre, mais en tout cas pour le moment, le couple Ryzen 3000 nouvelle carte mère avec leur nouveau chipset, c'est vraiment le truc à viser. Alors oui, attention, il y a un petit problème si vous avez déjà une carte mère AMD et vous voulez upgrader le CPU. Il y a un problème de rétrocompatibilité, car les mémoires flash intégrées sur les trois quarts des cartes mères sont pas assez élevées. Il faut 32 mégas sur les nouvelles pour faire rentrer les BIOS, et du coup c'est pas possible sur plein de cartes. Donc voilà, AMD ne parle pas de rétrocompatibilité d'ailleurs, hein. Il force, et il vous conseille de changer la carte mère, et ça sera à mon avis beaucoup plus fiable. L'autre bonne nouvelle est du côté Radeon, elle est moins bonne dans le sens où ils sont pas en train d'aller titiller Nvidia sur le super haut de gamme, mais les tests sont aussi tous d'accord sur la nouvelle Radeon. Pour de l'entrée de gamme et du moyen de gamme, ça y est, ils sont complètement au niveau, ils sont moins chers que les 2070 dont on parlait encore comme étant les reines du qualité-prix il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, allez voir les tests, vous pouvez vous faire maintenant une machine full AMD et économiser quelques brousoufs et ne plus être ridicule du tout, loin de là. Donc voilà, moi j'ai peut-être un projet pour 2020 de me faire un Hackintosh à base d'AMD. Je pense que ça marchera jamais, je le ferai pas, parce que c'est pareil, je crois que t'as plus vite fait de jouer un MMO que de monter un Hackintosh et de faire les patchs. Mais en tout cas, ça fait hyper plaisir de voir que le marché a évolué et qu'on est sur un retour des rouges, parce que franchement la boîte a failli crever je sais pas combien de fois depuis ces dernières années, et les mecs sont toujours là, et bim, ils arrivent avec un produit qui cartonne. Ça fait ultra plaisir.
Ouais,
et
puis ça manquait de concurrence aussi pour nous, c'est une bonne chose clairement. Et c'est la fin de ce 97e épisode de Torréfaction. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. Ça y est, tu vas pouvoir te téléporter maintenant à l'autre bout de la ville.
Ouais, la téléportation avec 4 roues, un volant et tout, c'est de la merde.
Bon courage.
Je suis désolé. Donc, je trouve cette téléportation extrêmement moyenne. Je pense qu'il est possible de faire beaucoup mieux. J'aimerais que la science s'en occupe. Merci beaucoup.
Allez, à la semaine prochaine. Ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.